Me semble que ce serait beaucoup plus intéressant de venir vers quelqu'un qui n'est pas nécessairement un saint, canonisé, j'entends, mais qui a tout pour l'être, il me semble. Et c'est un Québécois qui est mort en 1926, l'année de ma naissance, et qui a un nom anglais, mais qui est un Canadien français, Monseigneur John Forbes, mais on prononce John Forbes. Son vrai nom, c'est pas John, c'est bien Jean. Il a été baptisé d'un prénom français. Et ça a été le premier père blanc à une époque extrêmement courageuse. Il y a 110 ans au moins qu'il est entré chez les pères blancs à une époque où ça ne devait pas être facile de prendre une telle décision pour un Canadien français, un Québécois. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. J'aimerais commencer, avant de vous raconter sa vie, par la lecture très brève, juste d'un petit passage d'une lettre qu'il écrivait. Mon Dieu, il écrivait ça. C'était sa lettre de demande, hein, pour être admis chez les Pères Blancs. Et c'est daté du Grand Séminaire de Montréal, donc rue Sherbrooke, près de la rue, près de Côte-des-Neiges, là. Grand Séminaire de Montréal, 22 mai 1886, révérend père supérieur. Je suis Canadien de naissance. Et puis, il dit, j'ai 22 ans et demi. Et je suis l'aîné de la famille. 16 enfants. Et un peu plus loin dans la lettre, il dit, vous pouvez juger du Grand Séminaire de Montréal en le comparant avec les grands séminaires de France. C'est le même règlement. Il dit, j'aime beaucoup l'étude des langues. Je suis passionné pour l'hébreu, que j'étudie depuis 3 ans. L'un des motifs qui me pousse à apprendre cette langue, c'est le profit que je crois pouvoir en retirer plus tard pour l'étude des langues que l'on parle en Afrique. Le français est ma langue maternelle. Je parle aussi facilement l'anglais et je comprends un peu d'allemand. À 22 ans et demi, à Montréal, c'est tout de même intéressant. Il continue en disant, dernièrement, j'ai reçu mon appel au sous-diaconat, mais mon directeur a décidé que j'attendrai encore avant de recevoir les ordres sacrés. Et en voici la raison. Depuis 4 ans et demi, mon révérend père, je me sens appelé à devenir prêtre missionnaire de Notre-Dame d'Afrique. Ça s'appelait comme ça, les Pères Blancs. Alors, je vous fais grâce de tout ça. Il a pensé aux trappistes aussi. Et finalement, il entre chez les Pères Blancs. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne, je me souviens plus si je me suis identifié là. Il y a quelques années, en 1988, les missionnaires d'Afrique, les Pères Blancs, ont souligné le centenaire de cet engagement missionnaire là, du premier jeune Canadien dans la Société internationale des missionnaires fondée par le cardinal Lavigerie. Je vous avais tout raconté ça. Le 27 novembre dernier, il y a toute une cassette sur le cardinal Lavigerie qui a fondé les Pères Blancs, un Français, et fondé donc en 1868. Et notre Québécois là, est entré 20 ans plus tard, simplement. Ça a été établi, ça, pour l'évangélisation de l'Afrique. On les appelle des Pères Blancs, c'est parce qu'ils portent une gandoura blanche en laine. Ils sont habillés un peu comme des Arabes, avec même ils portaient le fez un peu rouge. Vous savez, cette espèce de gâteau rouge avec un gland noir qui pendait de ça. Ils avaient autour du cou un chapelet magnifique, blanc et noir. Alors, c'était grandiose, ce costume. Boussignac avait le père Gauthier qui habitait tout près de chez moi, Outremont, quand il venait à Montréal. Il venait voir ses sœurs. Il était très, très rare. Il était venu quand j'étais enfant. Ça avait fait naître en moi, à 4, 5, 6 ans, le désir de devenir père blanc, ne serait-ce que pour porter ce beau costume. Heureusement, je ne suis pas rentré. On ne rentre pas pour un costume. Et alors, donc, il s'appelait, lui, Jean-Paul Antoine Forbes. Et très tôt, on l'a appelé John, comme son père. Et il a toujours gardé, finalement, le prénom de John, comme ça. Il était appelé comme ça. Il est né le 10 janvier 1864 à l'île Perrot, dans le comté de Vaudreuil. L'île Perrot, qui fait aujourd'hui partie du diocèse de Valleyfield. Ça faisait partie alors du diocèse de Montréal. Alors, John Forbes, comme je vous ai dit, est l'aîné d'une famille de 16 enfants, et son père, qui, je viens de vous le dire, s'appelait John Forbes, sa mère, elle, s'appelait Octavie Léger. Il avait un frère qui le suivait immédiatement. Il s'appelait Guillaume. Parfois, il était appelé Willy, hein, comme ça arrive souvent ici au Québec, ça. Il était né, lui, en août 1865, hein, l'année suivante, quoi. C'était son compagnon d'enfant, son compagnon d'études. Et, chose extraordinaire, il va devenir lui aussi évêque, comme John. Il sera évêque de Joliette, tout d'abord, puis ensuite archevêque d'Ottawa. Alors, très tôt, la famille Forbes vient s'établir à Montréal. John, à ce moment-là, je pense, a 4-5 ans. Et ils vont s'établir d'abord rue Sanguinette, dans la paroisse Saint-Jacques. La paroisse Saint-Jacques, c'est là où il y a ce clocher, n'est-ce pas, qui a été gardé, et puis il y a aussi un porche d'entrée qui a été gardé dans les structures, les constructions de l'UQAM, hein, de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. Ensuite, ils sont déménagés rue Saint-Urbain dans la paroisse Notre-Dame. C'est assez intéressant parce que c'était deux églises importantes. Et John et Guillaume, son frère, font leurs études ensemble, comme je vous ai dit. D'abord au Jardin de l'Enfance, des Sœurs Grises, ensuite à l'école du Plateau, là, au Parc La Fontaine, chez les frères des écoles chrétiennes. Puis au Collège de Montréal, rue Sherbrooke-Ouest, qui s'était dirigé par les Sulpiciens jusqu'à tout récemment. Hein, les Sulpiciens ont abandonné le Collège de Montréal tout récemment. Il n'y a plus de Sulpiciens, ou presque pas. Hein, c'est fini, malheureusement. Alors, les Sulpiciens du Collège de Montréal habitent maintenant au Grand Séminaire, et c'est dirigé par des laïcs. Je crois qu'il reste quelques Sulpiciens qui enseignent encore. Et donc, les deux frères Ford entrent finalement au séminaire de philosophie, sur le chemin de la Côte-des-Neiges, là, un peu dans la côte, et ensuite au Grand Séminaire, rue Sherbrooke, Grand Séminaire de théologie. On peut dire que leur esprit, leur cœur, leur âme là, s'ouvrent à une formation, c'est la formation de l'époque, hein, qui les préparait à la réalisation d'une vocation exigeante. Les Sulpiciens étaient vraiment assez stricts. Hein. Et dans sa lettre, dans des lettres que l'on a de John Forbes, on voit qu'il a aimé cette régularité. Sa vocation missionnaire semble tout à fait remonter, chose étrange, à son enfance vers l'âge de 10 ans. Ce fut progressif. Hein? C'est en 1881, alors qu'il avait 17 ans, là, et il était étudiant en philosophie, il a ressenti fortement l'appel de se consacrer aux missions d'Afrique. Hein? C'est souvent en lisant des annales missionnaires, des récits de missions, et surtout de martyrs. Lui, ce qui l'avait frappé, c'est les martyrs d'Alger. Hein? Alors, John Forbes, je vous l'ai dit tout à l'heure, a écrit au supérieur du noviciat qui était à Alger en mai 1886. Il lui dit, au mois de novembre 1881, en jetant les yeux sur un bulletin de vos missions, j'ai aperçu le titre « Le martyr de quelques pères d'Alger » qui venait d'être massacré. Et aussitôt, je me suis senti intérieurement poussé vers les missions d'Afrique. Et depuis ce jour, cette pensée ne m'a jamais quitté. Je dois ajouter que j'ai eu quelques entretiens avec le révérend père Voisin lors de son voyage en Amérique. Le père Voisin a quitté au Canada, n'est-ce pas, en 1882-83. Et il ajoute, John Forbes dans cette lettre, il dit, et il me fit un peu connaître la société des missionnaires d'Afrique, les pères blancs. S'il n'eût tenu qu'à moi, je serais parti avec ce bon père, tant j'étais enflammé du désir de me consacrer au salut des nègres. Je dis des nègres, c'est le texte. Il n'y a rien de mal à dire des nègres. Après tout, on dit de l'art nègre. On parle de la négritude. Et c'est curieux comme ce mot est devenu désobligeant. Et pourtant, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de désobligeant dans ce mot qui noble en soi, quand on pense à la grandeur de tant de peuples d'Afrique, où je suis allé, heureusement, et je les ai connus, je les ai beaucoup aimés, au Cameroun et ailleurs. Mais c'est en cette même année, 81, là, que John Forbes écrit à sa famille une lettre. qui nous fait connaître un autre événement qui est arrivé 6 ou 7 ans plus tôt. Il dit « Vous avez sans doute à la maison cette brochure du père Charmetan concernant les missions d'Afrique. Veuillez me l'apporter à votre prochaine visite. » Or, le père Charmetan, c'est un père blanc que le cardinal Lavigerie, fondateur des Pères Blancs, avait envoyé à Mgr Charles Fabre, alors évêque de Montréal. Le père Charmetan avait connu Mgr Fabre intimement au séminaire de Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux, à Paris. Il lui avait demandé, en 1874, la permission de faire connaître les missions des Pères Blancs au Canada. Et malgré son grand désir de partir aussitôt avec le père voisin, on lui conseille prudemment de continuer ses études de théologie jusqu'au moment du sous-diaconat. C'est ce que John Ford va faire, et ça change pas son orientation. Et le 12 août 1886, donc à 22 ans, l'abbé John Ford, on appelait comme ça les séminaristes dans le temps, jusqu'à tout récemment, on disait l'abbé. C'est curieux, les choses ont bien changé. Alors, il y a les grands séminaristes et ils s'embarquent pour Maison Carrée. Ça va rappeler des souvenirs aux gens plus âgés. Maison Carrée à Alger, c'était là. On parlait souvent de ça, quand on parlait des Pères Blancs. Et le 31 août de l'année suivante, il est admis au Scolastica de Carthage, en Tunisie, pour y faire sa dernière année de théologie. Il faut dire que dans le Maghreb, dans les pays arabes d'Afrique du Nord, ils appartenaient à la France et il y avait beaucoup de catholiques et de chrétiens parmi les musulmans. C'était une minorité, mais il y en avait quand même suffisamment pour qu'il y ait une espèce de climat chrétien jusqu'à un certain point. Alors, il prononce l'année suivante le serment d'engagement avec la Société des missionnaires d'Afrique, car au fond, ce sont des pères, on dit les pères blancs, mais ce sont en fait des prêtres séculiers en association, dans une société, Ça surprend toujours quand on dit ça, c'est un peu comme les sulpiciens. Et alors donc, sa promesse là se fait le 25 septembre 1888, puis il reçoit le diaconat le mois suivant, puis la prêtrise, toujours. Alors le père Forbes accomplit d'abord un stage de 5 ans au séminaire de Sainte-Anne de Jérusalem. Là, il enseigne aux futurs prêtres de rite melkite. Nous avons une paroisse catholique de rite melkite à Montréal, la paroisse Saint-Sauveur sur la rue Saint-Denis, près de la Gauchetière. Ils veulent vendre leur église là pour déménager. Ils ont d'ailleurs un évêque à Montréal, leur propre évêque. Ils sont catholiques. Mais on rappelle l'abbé John Forbes, le père John Forbes, devrais-je dire, au noviciat de Maison Carrée à Alger. Là, il travaille là 7 ans, à la formation spirituelle des jeunes gens qui veulent devenir missionnaires d'Afrique et qui viennent d'un peu partout dans le monde. Il s'y trouve aucun autre Canadien, il est tout seul, le seul Canadien. En septembre 1895, le père Forbes revient au Canada pour y refaire sa santé. Mais il ne se contente pas de prendre du repos. C'est un zélé, c'est un enthousiaste. Alors, ça lui donne l'occasion de faire connaître les Pères Blancs aux jeunes Québécois, aux jeunes Canadiens, en leur parlant de l'idéal, son idéal, l'idéal des Pères Blancs. Il retourne l'année suivante au noviciat de Maison Carrée à Alger pour continuer son travail de formation. Et là, le Père Forbes est enfin heureux, en 1897, d'accueillir dans ce noviciat à Alger un Canadien, un Québécois, en la personne d'Eugène Beauchamp, venu cette fois du séminaire Sainte-Thérèse au nord de Montréal. Et il y en aura beaucoup d'autres par après. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes Québécois vont rentrer chez les Pères Blancs pour se diriger vers Alger. Les Pères Blancs se rendent compte, en tous les cas, que le temps est venu d'ouvrir un noviciat au Canada aussi en juillet 1900. Le père John Forbes doit revenir au Canada. Il a 36 ans. Il réussit à intéresser à la cause des missions d'Afrique Mgr Bégin, Nazaire Bégin, qui est évêque de Québec. Et cet évêque lui permet d'établir un postulat, un noviciat, dans son diocèse sur la rue des Remparts, c'est près de l'Université Laval. Le Mgr Bégin avait dit au père Forbes, « Je verrai avec bonheur vos jeunes pères blancs figurés parmi nos séminaristes. » Ça devait trancher de costumes blancs sur ces soutanes noires des séminaristes. Alors il les admet en philosophie, en théologie, puis il dit « Venez donc, cher père, prendre place au milieu de nous, notre cœur s'en réjouit. » Alors le père Forbes, dès son arrivée au Canada, bien commence à parcourir le pays. Son enthousiasme, ses qualités d'esprit de cœur aussi, puis évidemment bien le travail de l'Esprit Saint, ça lui permet de toucher rapidement le cœur des jeunes gens. Et père Forbes est nommé supérieur, évidemment, du noviciat, situé d'abord au 41 avenue des Remparts, puis l'année suivante, comme c'est trop petit, bien, ils vont s'établir au 37 rue des Remparts, une maison beaucoup plus vaste. Ça va leur suffire jusqu'en 1929. Cette maison, d'ailleurs, prend dès le début un caractère international. Le 12 août arrive, en effet, le père Jules Saul, un Français. Vous prenez des professeurs, le père Balthazar Drost, un Hollandais, lui. Puis un peu plus tard, le frère Eutime, les pauvres frères ont toujours des noms terribles. C'est un Allemand, celui-là. Puis un frère Jean de Dieu, qui est un Hollandais encore. Là, le 5 septembre 1901, les 6 premiers postulants, ils font leur entrée. Alors, tous persévèrent dans leur vocation. Dont le jeune Oscar Morin, qui va devenir plus tard le premier vicaire apostolique de Navrongo, Ghana. Alors, il faut cependant mentionner que ça n'est pas toujours la même. C'est pas toujours la même chose. La vocation missionnaire, ça demande de grands sacrifices. Ça demande une profonde conviction. Et là, l'enthousiasme créé par la prédication du Père Forbes, ça suffit pas, ça, à donner le courage, les énergies nécessaires à des jeunes gens qui se présentent. Il faut s'attendre à des échecs. Alors, des jeunes pleins d'enthousiasme se présentent. Mais ils n'ont pas les aptitudes requises pour une vocation qui est extrêmement exigeante, je le rappelle, je le redis. Le père John Forbes doit donc faire face à toutes sortes d'épreuves. L'année suivante, 1902-1903, le père Forbes éprouve justement une première déception terrible. Sur 8 entrées, 2 seulement vont persévérer. En 1903-1904, l'année suivante, donc, 4 sujets sont acceptés au noviciat et aucun d'eux ne parvient à être ordonné prêtre. C'est pas facile, hein? L'année suivante est meilleure. 4 sur 6 arrivent au but. L'année 1905-1906 est désastreuse. 2 quittent en octobre tout de suite, donc, couple de 2 mois après leur entrée. Le 3e revient du noviciat d'Alger après seulement 2 mois. On l'avait envoyé à Alger, croyant que c'est une belle vocation, puis il se décourage au bout de 2 mois. Imaginez. À compter de 1906, là, les résultats s'améliorent, de telle sorte qu'au départ du père John Forbes, en 1914, après 14 ans d'efforts, donc, sur 51 postulants acceptés durant toute cette période, pour étudier leur vocation, là, 33 auront persévéré. Ils seront devenus pères blancs, c'est-à-dire missionnaires d'Afrique. À une époque où il risquait la mort. Il faut dire que durant les 14 années où le père Forbes était à Québec, là, il ne s'occupe pas seulement de recruter des vocations. Il faut développer aussi chez les chrétiens, les laïcs, l'esprit missionnaire, pour qu'ils puissent financer ces missions. Ça coûte très cher, tout ça. Alors, il fréquente pas seulement les séminaires, les collèges, mais il parcourt avec ses confrères tous les diocèses où on lui permet de le faire. Il se rend même aux États-Unis. Mais il faut faire davantage. Alors, il le fait au prix presque de sa santé. Il lance son bulletin des missions d'Afrique en langue française. Ça va rappeler de vieux souvenirs, ça. Dès l'année 1905, hein, ça existait longtemps, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Je me souviens, on était abonnés chez nous et j'attendais ça quand on était jeunes. Ah, qu'on avait du plaisir à lire ça. C'était captivant. Ensuite, il lance un bulletin de langue anglaise, « The African Missions of the White Fathers ». Alors, on peut imaginer tout le travail que cela comporte pour un personnel qui est très restreint. Hein? Et le père Forbes est un véritable apôtre. Il peut pas voir, lui, des besoins spirituels sans s'y livrer. Il est dévoré. Hein? Il s'occupe en particulier de pourvoir, là, aux besoins spirituels des Syriens qui sont des Maronites de Québec. C'est une autre église entièrement unie à l'Église catholique, les Maronites. Alors, il a appris la langue des Syriens, la langue arabe, durant les 5 années qu'il a passé à Jérusalem, en Palestine. Ça s'appelait comme ça à l'époque, alors qu'il était professeur, n'est-ce pas, au séminaire grec Melkite, là. Séminaire qui était confié aux soins des Pères Blancs. Et ce sont d'ailleurs les Pères Blancs qui avaient la garde de la basilique Sainte-Anne de Jérusalem. Alors, avec la permission des autorités, bien, il entreprend de desservir la communauté maronite de Québec, qui comprend 80 à 100 personnes déjà à cette époque. Ça fait longtemps que les Syriens catholiques sont parmi nous. On leur doit beaucoup. Et ce sont des Arabes catholiques. Les Arabes sont pas tous des musulmans. Et chaque samedi, bien, il se rend à l'Hôtel Dieu pour y confesser ce qu'il désire. Si c'est un confesseur, il aime confesser, aider les âmes. Il accepte de rendre service à diverses communautés religieuses de Québec. Et 3 ans de suite, par exemple, il prêche la retraite au couvent du Bon Pasteur. Il répond toujours positivement au curé des paroisses qui lui demande de l'aide, d'un prêtre disponible. Puis cela, non seulement dans le diocèse de Québec, mais aussi dans d'autres diocèses, et même aux États-Unis. Alors, c'est un homme, John Forbes, le père John Forbes, qui se dépense sans compter. C'est un vrai prêtre, un véritable missionnaire. Monseigneur l'archevêque Bégin, là, de Québec, fait au père Forbes l'honneur de l'inviter à faire partie du tribunal ecclésiastique, si c'est un honneur. Il est chargé de faire une enquête informative, là, dans la cause des martyrs canadiens. Et pour lui, mais c'est un grand bonheur. C'est aussi un acte de grande confiance de la part de Monseigneur Bégin. Et le père Forbes a par la suite, bien, la joie de connaître le fameux décret par lequel le pape Pie XI déclare nos fameux martyrs jésuites du XVIIe siècle bienheureux. Je vous ai raconté leur martyr au mois de septembre dernier. Nous y reviendrons, d'ailleurs. C'est tellement passionnant, cette vie des jésuites. Des premiers jésuites. On leur doit tellement, à ces jésuites ici au Québec. Et c'est le 25 juin 1925 qu'ils sont canonisés. C'est là une de ses dernières grandes joies, car il va mourir l'année suivante, en 26. Je vais vous le raconter tout à l'heure. Donc, en mai 1914, à 50 ans, le père Forbes reçoit sa nomination pour aller en Ouganda, en Afrique. Là, il va devenir un vrai missionnaire. Ce n'est que le 31 mai 1915 qu'il arrive à Rubaga. Rubaga, c'est là qu'il va vivre, en Ouganda, pour y prendre la direction de l'école supérieure Sainte-Marie. Donc, il devient missionnaire à 50 ans. L'Ouganda s'est situé, je vous le rappelle, dans la région des Grands Lacs, en Afrique, entre le lac Victoria, puis le lac Albert. Alors, à l'école supérieure Sainte-Marie de Rubaga, le père Joseph Filion, l'un des premiers postulants du père Forbes à la rue des Remparts à Québec, l'a déjà précédé comme professeur. Alors, le père Forbes prend la direction, lui, de l'école en 1915, le 31 mai. Et sa connaissance parfaite de l'anglais le désignait tout naturellement pour ce poste, parce que l'Ouganda, c'est la langue anglaise, là-bas. On y parle anglais. D'ailleurs, c'est assez curieux que des Québécois aient été souvent, ou presque toujours même, envoyés dans des pays africains de langue anglaise à cette époque. C'est que les Canadiens, à cette époque, sont considérés comme des sujets britanniques. Alors, ils sont considérés, pour ainsi dire, presque comme des anglophones. Et c'est comme ça. Alors, le père Forbes prend ce poste de direction en un moment difficile à cause de la guerre mondiale. Une trentaine de pères originaires de France ont été appelés à devenir soldats, ont appelé sous les drapeaux, comme on dit. Et comme tout le reste de la mission, bien, l'école de Rubaga est partiellement désorganisée. Et bon nombre d'élèves aussi ont été enrégimentés, doivent partir pour la guerre. Même en Ouganda, à ce temps-là, c'était comme ça, il y avait des grands régiments d'Africains. Alors, le père Forbes profite de cette fin d'année et des vacances pour apprendre la langue du pays, le Luganda. L-U-G-A-N-D-A. Il a avec lui deux de ses anciens postulants, le père Filion, comme je vous ai dit, ainsi que le père Hormidas Alary. C'était un postulant de l'année 1907-1908. Sa facilité pour l'étude des langues, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, ce qui a déjà aidé le père Forbes au séminaire de Jérusalem, il avait appris l'arabe. Ça lui permet, malgré ses 51 ans, de maîtriser rapidement cette langue tout à fait différente. Et là, on va voir cet apostolat extraordinaire tout à l'heure, dans la prochaine demi-heure, de cet homme merveilleux, de ce Québécois extraordinaire, qui est le père ou Monseigneur John Forbes, évêque. L'année scolaire 1915-1916 à Rubaga, en Ouganda, pour le père Forbes, il est supérieur du collège, ça lui amène en septembre 160 élèves, répartis en 5 cours, dont 18 au cours supérieur. C'était une époque pas facile pour... ces enfants-là venaient de la jungle, souvent, hein, de petites cases de la pauvreté la plus épouvantable. Et c'est extraordinaire l'action civilisatrice de l'Église dans ces pays. C'est absolument phénoménal. Il faut le voir pour le croire. Moi, j'étais stupéfait quand j'ai vu ça en Afrique. Et le père Forbes est chargé du cours des finissants. Son travail comporte en plus la direction, l'administration de l'école. Cette école avait été fondée pour doter l'Ouganda d'une grande école catholique, bien organisée, capable de former d'excellents Ougandais et de permettre aussi à l'Église d'avoir de bons rapports au sein de l'administration du pays et du gouvernement, car ce sont leurs élèves, à ces missionnaires, qui finissent par entrer dans l'administration. Il est regrettable que parfois certains d'entre eux aient trahi l'Évangile qu'ils avaient appris à l'école. De fait, ces premiers élèves obtiennent à la fin de cette année-là 15 emplois dans la fonction gouvernementale, et 3 autres obtiennent de bons postes chez des planteurs, donc l'administration des grandes plantations. Le père Forbes et ses confrères Père Blanc, là, se consacrent tellement bien à l'instruction et à l'éducation de leurs élèves que ceux-ci en sortent formés aux vertus de loyauté et de fidélité, tant envers Dieu qu'envers les autorités civiles. Plusieurs fois, d'ailleurs, pendant les 3 années de son supérieurat, le commissaire provincial de Kampala a bien voulu leur exprimer sa satisfaction au sujet de ces jeunes gens, sa reconnaissance aussi pour l'aide ainsi fournie au gouvernement par leur école. Il arrive de temps en temps que le père Forbes passe quelques semaines auprès de Mgr Streicher, qui est vicaire apostolique de l'Ouganda, et il lui rend de grands services. Aussi, il le demande à Rome, et aussi au Conseil général des Pères Blancs, comme auxiliaire. Cet évêque veut l'initier à l'avance aux préoccupations générales là, du vicariat. Il veut profiter aussi de sa connaissance de l'anglais, et puis de sa qualité de sujet britannique, comme je vous le signalais tout à l'heure, hein, dans ses relations avec les membres du gouvernement du protectorat, parce que c'est un protectorat anglais. Le 1er septembre 1917, le père Forbes reçoit l'aide de 2 confrères canadiens, le père Édouard Michaud, qui sera plus tard son successeur comme évêque, et le père Hormisdas Alary, ainsi que de 2 instituteurs ougandais. Tout va bien, tout va bien. Quand 3 mois plus tard, le 21 novembre, jour de la présentation de Marie, alors qu'il est à expliquer un problème de mathématiques à ses élèves, il reçoit une dépêche de Mgr Streicher qui lui apprend qu'il vient d'être choisi par le pape comme évêque coadjuteur de l'Ouganda. Le texte, la demande du pape, qu'on appelle une bulle, lui est expédiée le 27 novembre, mais elle ne lui parvient à Rubaga que le 8 février. Imaginez, ça prend tout le mois de décembre et janvier. Plus de 2 mois pour arriver le 8 février 1918. Son sacre, on appelle ça comme ça dans le temps, c'est l'ordination qu'on dit maintenant, l'ordination de l'évêque, là, s'est fixé à la Pentecôte le 19 mai 1918. Ça doit avoir lieu à Rubaga même. Le père Forbes est tout abasourdi par cette nomination. Il prend la chose de la façon la plus simple. C'est, comme il ne cesse de le répéter, la volonté de Dieu. Il l'accepte. Il accepte cette volonté de Dieu. Il va faire son possible pour ce que Dieu veut réaliser en lui. Alors, Dieu veut aussi se réaliser en lui, c'est comme il dit. Il veut devenir au fond le visage du Christ parmi les Noirs. Là. Alors le sacre, ou l'ordination épiscopale, a lieu tel que prévu au milieu d'une foule immense. Et Mgr Streicher a réuni autour de lui une cinquantaine de confrères. Et Mgr Swins, vicaire apostolique du Nyanza, est même venu pour l'assister. Alors bientôt, après son ordination épiscopale, Mgr Ford, coadjuteur, commence la série de ses visites dans toutes sortes de districts qui sont très éloignés du vicariat. Ça s'étend au-delà du lac Albert. Je vous ai dit que c'était dans la région des Grands Lacs d'Afrique. C'est un territoire, signale Mgr Ford dans des lettres, aussi grand, écoutez bien ça, aussi grand que le Québec. Donc, trois fois grand comme la France, hein? Le Québec, c'est 1,5 million de kilomètres carrés. La France, c'est 1,5 million de kilomètres carrés. C'est immense. Ils vont le faire par tournées successives. Ça le ramène toujours à Rubaga, où il a fixé sa résidence. Ces voyages d'évêques se font évidemment pas en avion, ni même en train, ni même en autocar, ni même en auto. Ça se fait comment? À bicyclette. C'est tout ce qu'il a comme moyen de transport. Ce n'est qu'en février 1921 qu'il va obtenir sa première motocyclette et cet évêque fait sa visite en moto, un évêque en moto. Ce serait amusant si on voyait ça à Montréal. Et en 1920, Mgr Ford remplace le vicaire apostolique à la tête de la mission, car Mgr Streicher, Streicher, c'est S-T-R-E-I-C-H-E-R, Streicher, est allé assister, lui, au chapitre général de la Société des missions d'Afrique des Pères Blancs, puis à la béatification à Rome des fameux 22 martyrs ougandais, qui sont canonisés, n'est-ce pas? C'est leur fête le 3 juin. Je vous en ai déjà parlé, mais je vais y revenir. C'est bouleversant, le martyr de ces jeunes garçons qui ont été mis à mort pour leur foi de novembre 1885 à janvier 1887. Mais il y en avait quelques-uns de ces Ougandais qui étaient plus âgés. Mais c'est d'un courage, d'une foi absolument phénoménale quand on lit le récit authentique du massacre de ces pauvres jeunes garçons. Et le jour même de la solennité, le 6 juin, Mgr Ford a la joie d'ordonner un prêtre. Un prêtre ougandais, évidemment. Alors en 1921, Mgr Ford part à son tour pour aller quêter chez les catholiques au Canada et aux États-Unis, car il veut terminer la construction de la cathédrale de Rubaga. Cette cathédrale, c'est un lourd fardeau pour la mission. Alors, il veut aussi réclamer la venue au Canada d'un institut de frères pour s'occuper de l'école supérieure de Rubaga. Ce seront les frères de l'instruction chrétienne de la province du Canada qui vont accepter de rendre ce service à la mission de l'Ouganda. D'autre part, bien, les catholiques du Canada puis des États-Unis répondent très, très généreusement aux appels, aux demandes de Mgr Ford. On le trouve partout fort sympathique. C'est un bel homme, en plus. Alors, il revient à Rubaga, en Ouganda, heureux de ce long et fatigant voyage. Mais tout de même, il est heureux de l'aide qu'il a reçue. Puis de nombreux amis qu'il s'est fait et qui commencent et continuent, d'ailleurs, à soutenir ses œuvres. Il a l'assurance que les frères de l'instruction chrétienne vont arriver en Ouganda à l'été de 1926. C'est l'année de sa mort. Et qu'ils seront donc un secours très puissant aux Pères Blancs pour l'évangélisation puis la formation chrétienne des Ougandais qu'il aime temps. Ils les aimaient. Les missionnaires, c'est ça qui est extraordinaire. Quand je vais chez les Pères Blancs, rue Saint-Hubert, tout près du terminus d'autobus, là, ils sont là. Ils ont parfois des conférences intéressantes, là. Hein? Ça vaut la peine. Vous pouvez vous téléphoner et vous renseigner. Bien, on voit combien ils sont attachés à ces pays où ils ont vécu 30, 40 ans. Hein? C'est bouleversant de les voir, ces vieux missionnaires québécois. En avril 1924, il s'était remis au service de sa mission. Il était heureux de se retrouver au milieu de ses enfants noirs. Puis le 3 juillet 1924, avait lieu la cérémonie de la fête là, des martyrs de l'Ouganda. Alors on en profite pour bénir la première pierre de la chapelle commémorative. Et tout cela est célébré par Mgr Forme, en présence d'au moins 5000 personnes, au pied de la colline de Rubaga. C'est le berceau, ça, de la foi catholique, qui a été arrosé du sang des 22 martyrs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, presque tous des jeunes, mais il y avait parmi eux un juge, oui, un juge de 50 ans. Il y avait aussi un ami du roi qui les avait condamnés à mort, un roi homosexuel qui n'obtenait pas les faveurs de ces jeunes garçons. Alors, un ami du roi qui avait 30 ans. C'était en 1886. Alors, il y a maintenant un peu plus de 3 mois que Mgr Forbes est de retour en Ouganda, quand tout à coup, là, les signes de fatigue puis de dépérissement de ses forces commencent à se manifester. Le mal, ben, n'est pas bien grave en apparence, mais il y a une blessure au pied qui s'aggrave. Ça le fait entrer à l'hôpital pour 5 jours. Et cette enflure au pied est en fait causée par une maladie de cœur, qui doit lui être fatale, car c'est le cœur, il va mourir du cœur. Mgr Forme se fait toutes sortes d'illusions. Il part le 20 juillet 1924 avec sa Ford, une Ford magnifique don qu'il avait reçue. C'est assez étonnant, hein, au cours de son voyage aux États-Unis, il l'avait reçue de Monsieur Ford lui-même, hein, M. Ford, comme on dirait. Alors, il se rend au Toro, à 230 000 de Rubaga, 230 000 dans des régions difficiles d'accès, pour visiter des groupes de chrétiens. Il veut traiter aussi avec les autorités administratives anglaises et indigènes de la question si importante des écoles catholiques. Il a, de fait, obtenu un octroi de 200 livres sterling pour le high school de cette région, avec promesse d'autres subsides, là, pour le territoire de Nkole. Alors, toutes ces préoccupations, puis bien d'autres encore, je vous fais grâce de tout le reste, ça concernait surtout le développement de la mission des Pères Blancs. Mais ça empêche Mgr Forbes. Forbes, ça s'écrit F-O-R-B-E-S. Hein? J'aurais dû le dire au début. Mgr Forbes, ça l'empêche de penser sérieusement à sa maladie. Il n'en parle à peu près jamais dans ses lettres, d'ailleurs. Le 18 octobre, cependant, il écrit à son frère évêque de Joliette, dont je vous ai parlé au début. Et il reconnaît qu'il n'a plus la même vaillance qu'au temps où il faisait ses tournées de quête en Amérique. Et de fait, le 7 octobre, le père Michaud écrit à l'évêque de Joliette, le frère de Mgr Forme, donc, « Le fait est que Mgr est très dangereusement malade d'une affection cardiaque. Son pouls ne bat qu'à 30 pulsations à la minute. » Je vous rappelle, c'est supposé 70, 72. Hein? 30 pulsations à la minute. « Et ses pieds sont enflés. Nous comptons sur votre prière. En ce moment, Mgr est incapable de se rendre à Mombasa ou en Europe pour se faire soigner. Nous craignons tous une mort prochaine. » Alors, le 24 février 1925, il quitte enfin Rubaga, sa ville d'adoption, pour ne plus y revenir. Ça brise le cœur d'un évêque. Il part pour Mombasa, où l'altitude n'est que de 50 pieds au-dessus du niveau de la mer, alors qu'en Ouganda, Rubaga, puis la région, là, ça se trouve, c'est très haut, hein, à 4000 ou 5000 pieds d'altitude. Mgr Forbes a quand même bon espoir de pouvoir se remettre bientôt, puis de reprendre le chemin des hauteurs. Alors, il vit à Mombasa durant 3 mois, de mars à juin, mais hélas, sans arriver à se guérir, son pouls reste toujours lent. Le 20 mai, il annonce qu'il part pour Marseille, dans le sud de la France, le 1er juin. Et en effet, le 24 juin, On l'appelle la Saint-Jean-Baptiste. Il est à Paris, à la procure des Pères Blancs de la rue Friant. Il se fait soigner à l'hôpital Pasteur. Puis, après un certain temps, bien, il part pour Billière, où les Pères Blancs ont une maison de repos dans le sud de la France. Monseigneur Forbes ne perd pas pour autant l'espérance de se rétablir suffisamment pour retourner en Ouganda. Son âme de missionnaire est toujours ardente. Et le 24 juillet, il commence une neuvaine à la Sainte Vierge, qu'il va finir à Lourdes, qui est tout près de Billière, où il se repose. Monseigneur John Forbes projette aussi de revoir son médecin à Paris en novembre. Le 14 octobre, son frère, l'évêque de Joliette, vient enfin le visiter à l'occasion de sa visite ad limina, visite que tous les évêques doivent faire, n'est-ce pas, au Saint-Siège, au Vatican, pour faire rapport, pour affermir leur lien aussi, ad limina apostolorum, c'est-à-dire, ça veut dire au seuil des apôtres. En l'occurrence, ben, Saint-Pierre, Saint-Paul, hein, Saint-Pierre, fondement de l'Église catholique, et Saint-Paul, qui est le plus grand des prédicateurs chrétiens catholiques. Alors, Monseigneur John Forbes ne réussit pas à reprendre ses forces. Il faiblit constamment. La veille de Noël, pendant son action de grâce après sa messe, il y a une crise cardiaque qui suscite une syncope. Alors, on croit prudent de l'administrer, de lui administrer le sacrement des malades. Il se remet pour quelques semaines encore, c'est un avertissement. Mais dans ses lettres, les lettres de ce grand évêque, il répète toujours qu'il va mieux et qu'il espère bientôt repartir pour aider les Ougandais. Mais le 13 mars 1926, alors qu'il est au réfectoire pour le goûter habituel de l'après-midi, c'est curieux sa mort, hein, il cause de façon fort gaie. Puis, il dit tout à coup à ses confrères, « Tiens, j'ai un vertige. » Et il s'affaisse tout simplement sur la table. Rien ni personne ne parvient à le ranimer. La mort. La mort a fait tout doucement son œuvre. Notre Seigneur, son Seigneur, est venu prendre avec lui celui qui, avec tant de générosité et d'ardeur, s'est donné entièrement dans une vie missionnaire extrêmement féconde. Il a été le premier Père Blanc québécois. Il a tout donné à l'Afrique, où il a tant travaillé, et en servant la Société des Pères Blancs. Cette société qu'il a mis au monde au Québec, au Canada. Les Pères Blancs du Québec gardent un souvenir plein de reconnaissance pour celui qui a été l'initiateur de ce grand mouvement missionnaire qui s'est répandu chez nous pour la conversion et l'éducation des Africains. C'est pourquoi les Pères Blancs tiennent à se souvenir du geste de courage exceptionnel de ce grand missionnaire auquel ils doivent leur existence ici. Et je dirais aussi, ils lui doivent un peu de leur dynamisme missionnaire, leur sérénité exceptionnelle à ces Pères Blancs. Chaque fois que je téléphone chez les Pères Blancs, je suis toujours étonné de la qualité de leur conversation, l'intelligence, leur foi aussi, sans borne, en Jésus-Christ, le Sauveur. Voici ce qu'écrivait le père Michaud, supérieur du Collège Sainte-Marie, le 28 mars 1926, donc quelques jours après la mort de Mgr Forbes. Très révérend père, la mort de Mgr Forbes nous a fait comprendre quelle place le vénéré défunt tenait dans nos cœurs et dans le Bouganda. Tous, nous l'aimions et le vénérions. À la cathédrale de Rubaga, la cérémonie eut un caractère très touchant. La cathédrale était bondée de Baganda attristés, une tribu, les chefs en tête. Et c'est assez étonnant ce qu'il ajoute. Comme c'est un pays de langue anglaise et un protectorat anglais, c'est surtout anglican et protestant. Alors, dans la lettre de ce père Michaud, on peut lire « Les témoignages de sympathie sont venus de partout. » Sir ou Sir Daoudi Choa, roi de l'Ouganda, vint en personne voir le supérieur de Rubaga pour lui offrir ses condoléances. Kazagama, roi du taureau, Théo-héro, du taureau, écrivit une lettre bien sentie. Le petit journal hebdomadaire Uganda Herald, sous le titre In Memoriam, fit paraître un article éditorial des plus élogieux. L'éditeur, un protestant, écrit en effet « C'est avec le plus grand regret que nous apprenons la mort de sa grandeur, Monseigneur Forbes, évêque coadjuteur de la mission des Pères Blancs en Ouganda. Tous pleureront son décès, surtout ceux qui ont eu l'honneur de connaître cet homme, le meilleur et le plus doux des hommes. Non seulement la mission a perdu son ami et son guide spirituel, mais le pays aussi a perdu un soutien énergique et un conseiller avisé. » C'est un protestant qui parle. Il fut sacré à la Pentecôte de l'an 1918, dans la vieille église de Rubaga, et c'est dans ce sacre que naquirent les espérances des années suivantes, savoir que sa grandeur, c'est comme ça qu'on parlait des évêques, que sa grandeur travaillerait à finir la grande cathédrale qui est maintenant debout sur la colline de Rubaga et dans laquelle lundi on chantera une messe solennelle de requiem à sa mémoire. Constant dans son dessein, le poursuivant avec cette énergie et ce talent qui étaient ses caractéristiques, il s'embarqua pour le Canada et les États-Unis afin d'y trouver des fonds pour sa cathédrale. 1924 le trouvait de retour et janvier 1925 une maladie de cœur le forçait à retourner en Europe. Il espérait guérir afin de revenir achever ici sa tâche. Quand toute espérance de guérison lui fut enlevée, son suprême désir fut encore de retourner dans l'Ouganda pour y mourir au milieu des siens. Mais ce souhait ne devait pas se réaliser. Il s'est éteint à Pau, P-A-U, la Pau en France, il y a quelques jours. Ainsi s'en est allé un des grands hommes de l'Afrique. C'est le protestant qui parle toujours. Un des grands hommes de l'Afrique, cœur large, personnalité puissante, Monseigneur Forbes a vécu une noble vie. Ce sont des hommes tels que sa grandeur, qui ont fait la mission des Pères Blancs, ce qu'elle est aujourd'hui, et qui laissent après eux la mémoire d'une vie bien vécue. Dans la lettre du Père Michaud, on peut lire aussi de son côté le docteur Cook de l'hôpital protestant de Namirambé, qui avait soigné sa grandeur, écrit « C'est avec le plus grand regret que j'apprends la nouvelle de la mort de mon cher ami et patient Monseigneur Forbes. Le connaître, c'était l'aimer. Je le respectais et le vénérais de tout mon cœur. » Et voici encore le témoignage de l'évêque protestant, le révérend Willis de Namirambé. « Je vous remercie de m'avoir fait connaître la mort de Monseigneur Forbes et je vous écris de suite pour vous exprimer à tous ma profonde sympathie dans la très grande perte que vous avez faite, car Monseigneur Forbes était un de ceux pour qui j'ai toujours eu la plus grande admiration et une précieuse affection, l'un des hommes les plus sympathiques, les plus désintéressés, les plus larges de cœur que j'ai connus. Sa mort est une perte non seulement pour votre mission, mais aussi pour l'Ouganda. Et je demande à Dieu qu'il daigne vous en donner un autre semblable pour le remplacer. » Et à la fin de la lettre du Père Michaud, il cite l'un de ses anciens élèves, étudiant en médecine au collège de Makerere. « Père, c'est beau ça, Père, je t'écris en pleurant pour te plaindre de la perte que tu as faite. Monseigneur Forbes était un père en qui j'avais une confiance illimitée. Jésus l'a appelé à lui. Moi, je ne fais que pleurer. Je ne pourrai pas étudier durant cette période. Il me reste un espoir. Monseigneur Forbes sera mon intercesseur auprès de la Sainte Vierge. Père, les larmes m'empêchent d'écrire. Prie notre Seigneur pour moi. » C'est beau cette lettre de cet Africain.